Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Elodie et je suis accompagnée de Beno FX. Salut Beno FX.
Salut Elodie.
Et nous accueillons Timothée Roux du FM2J, le Centre National de Formation au Métier du Jeu et du Jouet. Bonjour Timothée.
Bonjour à vous deux.
Et pour commencer cette interview, le classique fil rouge où on va te poser une petite série de questions et où les réponses seront le nom d'un jeu.
Alors, les réponses de tes questions seront peut-être mélangées avec les questions et les auditeurs et auditrices vous amuserez à essayer de remettre les bonnes questions, les bonnes réponses à leurs bonnes questions.
On mettra les vraies réponses peut-être quelque part dans le billet, tu sais, à l'envers ou en spoiler.
Je vais essayer de pas choisir des noms de jeux trop tendancieux parce que.
Si justement, c'est ça qui est drôle.
Pour commencer, quel est ton jeu Madeleine de Proust qui te rappelle un peu ton enfance?
Waouh. Bah pareil, stratégique qui me vient en tête, là, Onitama, que j'ai pas trop l'occasion de sortir, que j'aime bien aussi.
Quel est ton genre de jeu préféré et quel est ton jeu préféré dans ce genre?
Waouh, je vais faire waouh toutes vos questions, j'ai l'impression. Moi, je suis vraiment de l'école de... Ça dépend avec qui je joue, et c'est pour ça que cette question-là de choisir un jeu, je trouve ça super compliqué. Donc, je sais pas, j'ai eu un petit moment expert que j'aimais bien. J'avoue que la catégorie initiée, là, pour l'instant, me plaît bien, parce que c'est un entre-deux et on peut retrouver plein de joueurs. Je trouve que top 10 est quand même plutôt pas mal. Faut bien choisir les premières questions, mais une fois qu'on est lancé, ça marche bien aussi, quoi.
Est-ce que tu peux citer un jeu qui se trouve dans ta ludothèque et dont tu as un peu honte?
Le premier qui me vient en tête, c'est Clank, donc...
Tu pars pour 3 semaines et tu ne peux prendre qu'un seul jeu. Lequel?
J'ai pas testé Darwin's Journey et j'ai pas mal de bons retours, donc je serais curieux de me faire mon propre avis dessus.
Tu es invité pour une soirée chez des gens que tu ne connais pas, tu dois ramener un jeu, lequel?
Et ben encore une fois, je vais dire ce qui me vient en tête directement, même si j'ai joué 3 fois, Faraway, voilà, c'est pas très original, mais le jeu fonctionne très bien et ça m'a bien plu. Donc,
C'est très 2024, donc voilà. Ça marche. T'avais prévu un méga tournoi de Challengers à 8? Et tous tes amis t'ont lâché, vous vous retrouvez à deux, tu sors quel jeu?
Un petit time bomb, toujours efficace.
Est-ce qu'il y a un jeu que t'aurais aimé inventer?
Allez, on va aller sur Risk, histoire de te raccourcir un peu.
Et à quel jeu aimerais-tu jouer directement en sortant de cette interview?
Il y a eu un moment, une grosse vague sur un jeu qui s'appelait Gobit. Je ne sais pas si vous avez vu passer un peu ça. Donc, il y avait beaucoup, tous les joueurs jouaient un petit peu partout. Donc je pense que, en tout cas c'est le premier qui m'est venu en tête là. Donc,
Gobit,
ça va être...
Très bien, bah merci.
On va commencer l'interview. Est-ce que tu pourrais nous présenter le FM2J?
Ouais.
Parler un peu de son historique, etc. Et nous dire quelle est cette structure.
Eh ben, nous, on dit plutôt là, parce que c'est le centre de formation, mais souvent on parle de la formation au métier du jeu et du jouet. Okay. Après, ça reste général. Avant FM2J, il y avait d'autres structures, notamment des associations, dont une qui s'appelait Quai des Ludes. Mais FM2J existe vraiment depuis 2006. Donc ça commence à faire pas mal de temps maintenant. L'idée globale, c'était de partir des pratiques de terrain des ludothèques, de voir comment ça se passait, de voir que ça se passait pas toujours si bien que ça, et de voir comment on pouvait partir de ça pour essayer d'améliorer un peu ça. Donc c'est vraiment le mix entre la pratique, vraiment ce qu'on voit sur le terrain, et les connaissances universitaires, et comment qu'est-ce qu'on donne à quelqu'un pour que concrètement il sache quoi faire quoi sur le terrain.
Et du coup, tu disais c'était une association avant. L'histoire de la création du FM2J, tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais,
de
bah,
la FM2J.
en fait, Quai des Luttes, c'est ça. C'était une asso à la base. Et derrière, il y a eu une transformation de Quai des Luttes vers FM2J qui est devenue. Là, on est actuellement une SCOP. Donc, on est une dizaine. On est 11 salariés maintenant. Donc, ça grossit quand même pas mal. Hein. Moi, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis là. Et quand je suis arrivé, ils étaient 7. Donc et ce qui est intéressant, c'est que comme il y a plein d'individus différents qui arrivent maintenant, on a tous nos individualités, nos appétences en particulier, et du coup, ça oriente aussi un petit peu le développement actuel des FM2J, et c'est aussi pour ça qu'on est là sur le festival. On avait le dernier stand qu'on avait eu, c'était en 2015, donc ça remonte bien. Et voilà, moi je suis très très ancré vraiment dans le monde du jeu. On a fait le choix de venir cette année, et on regrette pas du tout, quoi. C'est vraiment génial.
D'ailleurs, quel est ton poste au sein de la structure ?
Alors moi, je suis formateur et je suis aussi responsable du secteur éducation. En fait, il y a 8 secteurs actuellement. J'espère 9 bientôt avec peut-être le monde du jeu. Et donc, bah, voilà, on est tous un petit peu soit formateurs, soit responsables de différents pôles. Mais voilà, comme c'est une petite structure, on se partage, on a tous 12 000 casquettes, quoi. Et voilà. Mais globalement, on va dire que je suis formateur, plutôt orienté éducation.
Et du coup, la FM2J, c'est basé où ? Vous avez des locaux quelque part ? Ou est-ce que vous proposez des formations un peu en itinérance dans toute la France ? Comment ça se passe ?
Eh ben, on a des locaux. Après, on est. En fait, l'idée, c'est qu'on va proposer plein de types de formations différentes. La base, hein, ce que je vous ai, c'est vraiment la ludothèque. Donc, on a été créé en partie, hein, vraiment sur former des ludothécaires, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des ludothécaires en poste qui n'étaient pas suffisamment bien formés au jeu. Donc, c'était comment déjà améliorer ça ? C'était la première étape. Et maintenant, on forme aussi des animateurs-jeux, on développe justement cette fonction animateur-jeu sur des options comme du festival, on est en train de travailler sur du bar à jeu. Donc ça s'est vraiment étendu, et les secteurs, je vous ai dit, moi je suis plutôt sur éducation, mais ça va de la petite enfance à la gérontologie, en passant par le handicap. C'est tellement large, en fait c'est vraiment tous les pros qui ont envie de se former à l'utilisation du jeu dans leur métier à eux. Comment est-ce qu'ils peuvent passer avec nous, soit sur des formations longues, comme bibliothécaire ou animateur jeu, ou sur des formations courtes d'un ou deux jours sur des thématiques très précises comme jeu et Alzheimer ou jeu et apprentissage. Voilà, il y a une quarantaine de thématiques de formation qu'on fait donc chez nous à Lyon. C'était ça la question initiale.
C'est ça.
Et du coup, au-delà de ces 40 formations qu'on fait chez nous, on fait aussi du sur-mesure. C'est-à-dire que on a presque plus de demandes de sur-mesure que chez nous. Donc on se déplace partout en France et à l'étranger, hein, là aussi. Et on va faire, selon ce qu'a besoin la personne, on va former une personne, deux, trois, quatre, voire toute l'équipe, à une question particulière, quoi.
Et vous pouvez faire des formations pour une seule personne, vous vous déplacez pour une seule personne ?
Alors, en général, si on se déplace, effectivement, on se déplace à partir de quatre personnes, parce que sinon, c'est quand même, pour le client, c'est pas très intéressant. Le but, c'est quand même, s'il y a qu'une seule personne, c'est plutôt que la personne vienne sur Lyon. En sachant que là, on développe aussi des formations en distanciel sur certaines thématiques qui sont pertinentes dessus. Pour permettre aussi des personnes qui sont toutes seules et qui venir à Lyon, si on est en Bretagne par exemple, ça peut être un peu contraignant. Donc voilà, c'est aussi pour répondre à cette demande là l'idée c'est vraiment de faire de la formation pour répondre aux besoins des pros qu'il y a. Donc on va adapter, on va développer des formations sur ces besoins là
et donc continuons sur le public. Du coup, qui est-ce qui participe à ces formations ? Est-ce qu'il y a une évolution de la demande et des profils de vos formés ?
Alors il y a une évolution la grosse formation, c'est la formation ludothécaire. Donc ils viennent une semaine par mois pendant 9 mois pour une formation certifiante diplômante reconnue au RNCP, etc. Pendant un an. Et en fait, dans les profils de base, on avait beaucoup de personnes qui effectivement voulaient travailler en ludothèque. Mais plus ça va, plus il y en a qui disent moi j'ai envie de monter mon entreprise, j'ai envie de monter mon bar à jeu, j'ai envie de monter tout ça. Et ça, on le voit depuis ces dernières années. Et c'est aussi pour ça qu'on réfléchit, on essaie de faire évoluer un petit peu toute cette offre-là, parce que les besoins changent. Il y a toujours besoin de bibliothécaires et il y en aura toujours besoin. Pour autant, il y a tellement une diversité d'acteurs maintenant qu'on réfléchit à toutes ces questions-là. Et c'est pour ça que je vous disais, le monde du jeu sur Cannes, c'est incroyable le nombre de personnes qui viennent nous voir avec des demandes encore différentes. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que c'est super qu'on soit venu cette année, parce que on va rentrer chez nous et on va se dire ok, on a plein d'idées, il y a plein de besoins, comment on peut faire ça et comment on peut développer tout ça pour que tout le monde arrive à développer son truc et à sortir un petit peu son épingle du jeu, quoi. C'est un peu l'objectif.
T'as des exemples à nous donner de ces demandes auxquelles vous auriez pas pensé?
Alors on en avait quelques-unes en tête, mais on a de plus en plus de demandes. Je vous parlais du barrage tout à l'heure. Et plus avant, on a aussi même sur tout ce qui est ludothèque itinérante aussi, qui se fait de plus en plus. Il y a des demandes, il y a énormément de demandes sur la création d'escape game, même si ça commence aussi à... Alors ça fonctionne toujours très très bien, hein, mais on sent que ça évolue aussi et que il y a eu un gros mouvement de foule il y a quelques années. Ça continue, il y a plein de personnes qui s'y lancent. Mais potentiellement il y a encore des nouvelles évolutions. Le jeu vidéo aussi est énorme là-dessus, et typiquement les besoins de formation des gens sur le métier du jeu de société, en fait ils vont se former soit sur du jeu vidéo souvent, soit sur du livre, et après les éditeurs ou autres vont aller recruter sur ces profils là donc encore une fois, c'est vraiment de se dire que il y a toutes ces demandes là, il y a beaucoup de demandes de je veux devenir chef de projet, je veux devenir game designer, donc ça Ce qui est chouette, c'est qu'on n'est pas les seuls. On sent que ça bouge partout, hein. Que ça soit l'Union des éditeurs, la Société des auteurs de jeux. En fait, toutes les structures s'organisent et on essaie de justement. On a rencontré différentes personnes de ces structures-là là sur ces 2-3 jours et on sent qu'il y a énormément de choses à faire et c'est passionnant. À la fois, ça fait un peu peur, mais c'est super excitant, quoi.
Oui, parce que pour préparer cette interview, on est allé un peu sur votre site et effectivement, le catalogue de formations que vous proposez est déjà assez fourni. Tu parlais de pour la création d'escape game, ouais. Pour les animations. Enfin, il y a vraiment un panel très très large. Est-ce que votre public est composé que de professionnels ou de projets professionnels, ou est-ce que vous avez aussi plus des particuliers ou des associations ou des choses qui sont enfin des profils un peu moins professionnels ou un peu moins en projet professionnel?
Ouais, et ben en fait il y a un petit peu de tout. On va avoir en fait les formations qu'on fait sur 1 ou 2 jours. Typiquement la formation animateur jeu, c'est choisir à peu près 10 jours de formation, dont certains qui sont imposés parce que pour nous c'est la base fondamentale, hein, et certains autres où justement les personnes vont pouvoir choisir à la carte. Et ben moi j'ai envie de me spécialiser sur de l'escape game, des jeux immersifs, de la murder party, tout ça. Là où on va avoir une autre personne qui va se dire bah moi c'est plutôt la petite enfance, utilisation d'espace symbolique, d'espace de motricité, comment on organise tout ça. Et en fait l'expertise qu'on a nous, elle est sur ce qu'on appelle le cadre ludique. Comment on aménage, comment on choisit, comment on sélectionne, comment on se positionne, et ça on l'adapte après à chaque public, à chaque structure. Donc c'est pour ça que ce que je vous dis, c'est qu'on est super généraux en fait. C'est vraiment n'importe quel pro qui se dit bah moi j'ai envie de soit travailler dans le monde du jeu, pourquoi pas, à ce moment là c'est vraiment très orienté jeu, soit juste j'ai envie de ludifier un petit peu ma pratique. Moi je forme énormément de profs, que ça soit des profs de collège, lycée ou école, voire même université, à bah voilà mon cours c'est ça, comment je fais pour que ça soit un petit peu plus interactif, comment je fais pour que, on l'a vu, les piliers de l'apprentissage, il y a vraiment cette dimension de je dois m'engager, je dois faire et je dois être attentif là-dessus. Bon, bah, comment je fais pour mobiliser tout ça? Et bon, encore une fois, c'est passionnant parce qu'on prend toutes les dimensions, on va dire, liées à la recherche de bah, ça a été prouvé que ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, on peut tout de suite donner presque tout cuit dans le bec aux professionnels. Ben, voilà, il faudrait organiser vos enseignements comme ça, votre formation comme ça, votre métier comme ça, en sachant que ben voilà, on apprend à faire et après l'idée c'est de les rendre autonomes après sur toutes ces pratiques là quoi.
Alors quand tu parles de jeux, évidemment nos auditrices et auditeurs vont penser jeux de société, ouais. Mais j'ai l'impression et on a eu l'impression en regardant votre site que c'est quand même beaucoup plus large que juste les jeux auxquels on joue à Cannes, par exemple.
Ouais, bah en fait, en gros, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on est beaucoup basé sur un système de classement qui est utilisé en ludothèque, hein, par beaucoup de ludothèques, qui s'appelle ESAR. Hein. Je suppose que vous avez peut-être entendu parler de ça. ESAR, c'est ouais. Exercice, symbolique, règles et assemblage.
Okay.
Ça veut dire qu'on va raisonner que, globalement, c'est basé, ESAR, il est basé sur les stades de développement de l'enfant, en se disant que ben, un nouveau-né, la première chose qu'il va le faire, c'est vraiment, on va être plutôt sur ce qu'on appelle du jeu d'exercice, c'est le stade sensorimoteur. Il va manipuler, il va avoir ce côté sensoriel, il va avoir ce côté, ben, je vais me déplacer dans l'environnement, je vais apprendre à maîtriser mon corps, mais il va avoir besoin de faire ça avant de faire autre chose. Donc ça, c'est la première forme. Et plus on va avancer, plus on va grandir, plus on va accéder à d'autres formes de jeu, donc du jeu symbolique avec du jeu de rôle, de mise en scène avec des Playmobil, se déguiser, tout ça, puis du jeu de règles où je vais être capable de voilà, c'est plus moi qui vais inventer ma règle, je vais être capable de respecter une règle qui a été inventée par quelqu'un d'autre, que je vais co-construire. Et ça, finalement, toute cette évolution là c'est l'accessibilité à différentes formes de jeux. Ça veut pas dire que nous, parce qu'on est à Cannes, on est capable de faire que du jeu de société. Il y a de la richesse dans tout, hein, quand on retrouve le jeu symbolique, finalement tout ce qui est jeu immersif, notamment les murders, incarner un rôle et le faire très très bien, c'est des compétences qui sont très élevées, mais ça correspond à une forme de jeu qui est un peu hybride entre du symbolique et de la règle. Ouais, donc c'est les 4 catégories qu'on va pouvoir proposer selon les publics qui vont être dispo quoi.
Et du coup c'est quoi dans votre approche les points communs et les différences en fait en fonction de ces différents types de jeux? J'imagine qu'il y a un tronc un peu commun et puis après il y a des spécificités dans chaque un petit peu catégorie type de jeu.
Ouais, en fait
pas forcément c'est... évident à définir mais
quand, juste pour si je reprends un petit peu les 4 catégories, l'idée c'est que chaque catégorie de jeu correspond à un besoin. Donc quand je vais moi vouloir proposer, quand je vous parlais de cadre ludique tout à l'heure, quand je vais vouloir proposer un cadre qui donne envie à jouer, je vais jamais faire jouer, je vais inviter à jouer. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que mon cadre, moi je n'agisse pas directement sur le joueur, j'agisse sur le cadre et le cadre donne envie au joueur de jouer. Et en fait, pour que mon cadre donne envie au joueur de jouer, il faut que les besoins du joueur soient retrouvés dans ce cadre-là. Donc le fait de proposer du jeu d'exercice, du symbolique, de l'assemblage, du jeu de règles, et même de la diversité aussi, hein. Même dans le jeu de règles, on la connaît, la diversité des jeux de société et de toutes ces mécaniques-là. Ça veut dire qu'il faut que je sois à la fois diversifié sur les quatre grandes catégories, mais aussi dans les sous-catégories du jeu de règles, de l'exercice, du symbolique et de l'assemblage. Et normalement, si ma proposition elle est bien faite, bah, n'importe qui arrive va trouver quelque chose qui lui correspond. Et ce qui est intéressant, c'est que même d'un jour à l'autre, la même personne va pas aller au même endroit. Aujourd'hui, j'ai pas bien dormi, je vais aller vers un jeu que je connais déjà bien parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité et j'ai pas la force d'aller vers autre chose. Et peut-être le lendemain, il va péter la forme et il va se dire, aujourd'hui, je vais découvrir un jeu que je connais pas. Et voilà. Mais donc, c'est bien ce cadre-là qui va orienter tout ça.
Et dans la formation, parlons de la formation la plus importante, celle de l'udothécaire.
Ouais.
Quelle est la part de chacun de ces quatre types de jeux ?
Un ludothécaire, en fait, en ludothèque, on va proposer tous ces types de jeux-là. Et ça va dépendre du lieu d'implantation de la ludothèque. Souvent, il y a quand même beaucoup plus de public qui va être un public jeune, moins de 10 ans. Hein. Une des problématiques des ludothécaires, c'est souvent de se dire, on a quelques adultes qui viennent, on a les enfants, mais les ados, on les perd un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour faire en sorte qu'ils se disent que la ludothèque, c'est aussi un lieu qui est pour eux ? Et du coup, c'est des réflexions sur tout ça. Donc, c'est sûr que la répartition de tous ces jeux-là en ludothèque, elle va être plutôt orientée dans un premier temps sur tout ce qui est exercice symbolique, parce que ça va correspondre à des jeux qui correspondent à du 0-6 ans, 0-7 ans, voire plus. Et après, on va aller vers du jeu de règles simple. Et les jeux de règles complexes, finalement, c'est ça une des grosses problématiques. Hein, c'est que souvent, c'est des passionnés qui vont être ludothécaires. Et ils vont se dire, moi j'adore le jeu expert, je vais acheter plein de jeux experts à la Ludo. Et au final, c'est pas les jeux qui sortent le plus, quoi. Donc notre job, c'est aussi ça, c'est de se dire, on va analyser votre stock. Vous avez 80% de jeux de société, jeux de règles. C'est quoi votre public ? 80% de 0-6 ans. Peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir et à ajuster, quoi. Donc c'est aussi avoir tout ce recul-là sur le public, etc. Mais peut-être que des fois, il y a d'autres Ludo où on aura énormément d'ados, énormément d'adultes. Et là, la gestion du stock va être différente. Mais c'est toujours cette logique du c'est quoi les besoins du public qui vient. Et là, on l'applique en ludo, mais c'est pareil, je vous parlais d'animateur jeu ou autre. C'est toujours la même chose, quoi. C'est juste cette adaptation et tenir un discours qui correspond à qui est-ce qu'on a en face de nous, quoi.
Au public et au type de jeu qu'on cible.
Ouais.
Et du coup, quand on t'écoute, on se demande mais comment faisaient les ludothécaires avant ? Pourquoi c'est important du coup de les former et pourquoi votre structure est importante du coup ? Enfin, ça paraît presque évident là quand tu nous racontes tout ça, mais du coup, comme tu le disais, ça n'existe que depuis 2006.
Ouais. 2006, ça fait quand même déjà
oui, ça fait quelques années,
déjà 18 ans, quoi. C'est et vrai. Pour autant, on se retrouve encore des fois avec des personnes qui viennent en formation chez nous. Et qui, n'ont pas été formés, se sont formés sur le tas. Et c'est pour ça que je fais un gros parallèle avec le monde du jeu, parce que chez les éditeurs et autres, c'est aussi ça souvent. Actuellement, il y a beaucoup de personnes, c'était une connaissance, on a eu un bon feeling avec cette personne, et on l'a formé en interne. Donc c'est la logique de la ludothèque, finalement, commence à s'appliquer au-delà de tout ça. Mais en tout cas, cette première logique, c'est aussi ça. C'est, même si ça fait 18 ans, nous, on forme 25, 24 personnes par an. Alors qu'il y a beaucoup plus de structures que ça, hein. Et après l'accès à la formation, c'est aussi quelque chose qui était moins valable, on va dire, avant. Il y a plus de financements qui se font maintenant. La certification ludothécaire, elle est actée, donc c'est quelque chose qui est finançable par tout ce qui est OPCO, CPF, machin, etc. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose qui le rend plus accessible. Et c'est en lien avec toute la professionnalisation du secteur, hein, finalement.
On a vu aussi sur votre site qu'il y avait tout un aspect autour des recherches, des publications, des conférences. Est-ce que tu peux nous parler des sujets que vous pouvez traiter ?
Ouais, carrément. En fait, c'est toujours la même base. Il y a eu une première observation de terrain. À côté, il y a toutes les connaissances universitaires. Dans l'équipe, la richesse de l'équipe, c'est qu'on a justement une diversité de profils qui est très forte. On va avoir le gérant, c'est un docteur en sciences de l'éducation. On va avoir une psychologue, on a des ludothécaires. Moi, je suis spécialisé plutôt sur... J'ai un master en sciences du jeu et un master en sciences de l'éducation. On a quelqu'un qui a fait une école de commerce. Donc tout ça, ça fait que justement, c'est des dynamiques qui vont nous amener vers d'autres développements. Et typiquement, pour pouvoir proposer quelque chose qui correspond au terrain, le fait de faire de la recherche, c'est aussi un moyen d'être à jour régulièrement de tout ça, de contribuer. Et c'est pour ça que je parlais de l'UH tout à l'heure, de contribuer aussi à plein de choses. On parlait, nous, de justement la finalité du jeu, juste l'essence du jeu en elle-même, de se dire que le jeu est quand même très dépendant de l'attitude et que un joueur, même s'il a en face de lui un bout de bâton et un caillou, s'il a envie de jouer, il va jouer, quoi. Alors que vous pouvez lui proposer le meilleur jeu du monde, l'As d'or, tout ce que vous voulez. S'il n'a pas envie de jouer, il ne va pas y aller. Donc la base première, c'est vraiment cette attitude-là. Et une fois qu'on a l'attitude, bah en fait, on a toutes les finalités du jeu qui sont débloquées. On va avoir un intérêt culturel, un intérêt éducatif, thérapeutique des fois, social. Donc en fait, tout ça, ça va forcément être déclenché dans le jeu à condition, et toujours à condition, que la personne ait l'attitude ludique, et cette attitude de jeu-là. Et le cadre permet d'avoir l'attitude. Et du coup, la recherche ici nous permet à la fois de se dire que chaque public a des besoins différents et va pouvoir, typiquement, la thèse de Cédric, qui est le gérant, c'était sur jeu et Alzheimer. Comment, pour un public Alzheimer, on va proposer du jeu et quel type de jeu on va proposer. Pendant longtemps, on s'était dit, Alzheimer, ok, il perd un peu la mémoire, on va faire un truc sur la mémoire, on va travailler tout ça. Alors que pas du tout, parce que Alzheimer, c'est neurodégénératif, on perd toutes ces compétences-là, on va pas les retrouver. Donc c'est plutôt, ok, on va lui proposer des activités qui correspondent à des capacités qu'il a encore pour le mettre en réussite, pour lui faire reprendre confiance en lui, retrouver cette autonomie. Et en fait, c'est des écoles qui vont arriver maintenant à travers justement toutes ces actions de recherche-là, quoi.
Et du coup, est-ce que vous avez des liens avec d'autres chercheurs, d'autres initiatives de recherche? Tu parlais du master sciences du jeu. On a eu l'occasion d'interviewer à l'université Sorbonne Paris Nord, le centre de recherche Experis et les responsables du master justement en sciences du jeu. On avait des rapports aussi avec Asmodée, le Gaming Lab, Asmodée Research, la gamme Access Plus qu'ils ont développé, etc. Est-ce que vous avez des liens directs avec ces autres participants au domaine de la recherche et autour du jeu? Et si oui, lesquels?
Ouais. Du coup, pour répondre simplement oui. En fait, on travaille en partenariat aussi avec Access Plus. Sur le développement, on fait partie mais du comité qui va tester les jeux qui sont proposés avant, qui partent en production, etc., pour valider les process, valider un petit peu tout ça. Cédric Guéraud, qui fait partie qui est le gérant donc des FM2J, et lui a fait effectivement, je crois qu'il fait toujours partie d'ailleurs de Gaming Lab aussi. Donc il y a forcément des liens qui sont faits ici. Et après, nous, on fait aussi ce qu'on appelle des recherches actions, c'est-à-dire que sans que ça soit forcément lié directement à une université, on va travailler avec des entreprises. On a bossé avec Léo Lagrange notamment, ou d'autres grosses structures. Léo Lagrange sont plutôt spécialisés sur tout ce qui est crèche petite enfance. Et justement, à travers cette recherche finalement sur le terrain, on a pu développer des formations qui correspondent exactement aux besoins qu'eux ils ont. Et on a formé des centaines et des centaines de crèches finalement dans leur réseau et au-delà, qui ont permis pour nous aussi d'améliorer la qualité des formations qu'on va proposer. Là, un axe qui marche très bien en ce moment, c'est tout ce qui est ludimal, c'est-à-dire comment on va proposer des objets de récupération dans les cours de récré qui sont quand même maintenant assez aseptisés ici, et comment on se rend compte que juste en mettant un pneu, un tuyau, etc., alors il y a des critères, je vulgarise un peu, mais comment juste en mettant ça, on se rend compte que les enfants vont naturellement aller jouer avec ça. Et ils vont prendre plaisir à ça, ils vont le détourner, ils vont faire plein de choses, ils vont adopter cette attitude ludique dont je vous parle tant. Et voilà, donc encore une fois, c'est toutes ces recherches-là amènent à ces réflexions-là et elles sont faites, et c'est vraiment la particularité des FM2J, à la fois avec des entreprises de terrain direct et à la fois avec du milieu de la recherche encore, quoi. Et voilà, à terme, on aimerait bien encore développer, nous aussi, aller vers potentiellement des actions de thèse, c'est des choses qui ont été évoquées aussi. Donc oui, il y a des ponts un petit peu partout, quoi.
Ouais, ce qui est beau, c'est de voir que vous travaillez avec tous les âges de la vie. On a vu qu'il y avait beaucoup de formations à viser des maisons de retraite notamment.
Ouais, encore une fois, là c'est aussi la sensibilité de chacun qui a fait ça. Et l'expertise d'FM2J, j'y reviens, sur ce cadre ludique-là. Donc à partir du moment où on a bien compris tout ça et qu'on comprend les spécificités de chaque public, forcément il y a des besoins partout. Et ça va aller, je vous disais, de la géronto, du handicap, de la petite enfance, ça va de l'enfance jeunesse, on a l'éducation. Là on bosse aussi avec tout ce qui est lié à... On appelle ça culture de manière un peu plus générale, mais on bosse aussi avec des musées. Donc finalement, il y a ce jeu qui s'immisce un petit peu partout. Et sans trop spoiler, on parle vraiment de jeu comme à l'origine finalement de différentes et de beaucoup d'activités culturelles, si ce n'est toutes. Parce que justement, la première activité, c'est d'abord le jeu, et c'est suite au jeu qu'on va développer ces activités-là. Donc typiquement, c'est quelque chose qui, quand on parle du jeu comme objet culturel, évidemment, ça tombe sous le sens quand on est sur en tout cas l'axe que moi je vous décris là, quoi. Mais
Et puis, je suis tout à fait d'accord. On a reçu Amnesty International juste avant parce qu'on trouvait ça intéressant qu'il soit sur le festival et qu'il nous rappelait aussi que le jeu était inscrit comme un droit humain fondamental finalement et que, comme tu le dis, c'est la base un petit peu aussi de l'apprentissage, de l'ouverture, de l'épanouissement des gens, etc. Donc, ouais, c'est cool.
mais c'est encore une fois, c'est assez passionnant. Et même nous, au sein de l'équipe, ce qui est chouette, c'est qu'on débat toujours sur des débats sans fin. Et on n'a pas tous les mêmes positions. Et du coup, ça fait aussi bouger tout ça. Et voilà, c'est vraiment génial.
En tout cas, tu as l'air hyper passionné par ton travail. Et c'est communicatif.
Ça, c'est cool.
Je ne sais pas si vous entendez ça, chers auditrices et chers auditeurs. Mais en tout cas. Notre invité, il a la banane depuis le début de l'interview et c'est hyper agréable.
Les gens passionnés sont toujours passionnants. Sur l'aspect conférence, du coup, vous proposez des conférences à qui, pourquoi ? Enfin, du coup, c'est plus pour l'aspect recherche, publication que vous faites des conférences ou ça peut être aussi de manière beaucoup plus généraliste à du plus grand public ?
Eh ben, en fait, pareil, encore une fois, quand je vous parlais de sur-mesure, c'est un petit peu tout ça, c'est... On va se retrouver à faire des conférences sur des thématiques qui peuvent être plus ou moins pointues. Hein. Ça, c'est vraiment des demandes. On nous demande des conférences. On dit, bah voilà, nous, on va être 80. Ok, on va pas vous faire une formation comme ça. Ou alors, on va vous proposer peut-être de faire plusieurs formations en découpant un petit peu les équipes, etc. Ici, mais puisque le jeu est en train de s'immiscer vraiment de plus en plus partout, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées, qui sont sensibilisées.
Dans et plus il y a de personnes à tous les niveaux.
C'est ça. Et donc forcément, les conférences vont intéresser de plus en plus de monde. Donc c'est quelque chose qui va être de plus en plus développé aussi. Et voilà. Et après, on reste une entreprise aussi. Hein, donc c'est aussi un moyen pour nous de donner un petit peu. Envie à travers ces conférences-là de faire découvrir 2-3 petits trucs et puis derrière si les gens veulent vraiment aller plus loin effectivement ils vont venir en formation et on va discuter, on peut développer des trucs avec eux, enfin voilà, c'est partager un petit peu tout ça quoi.
Mais j'ai l'impression que du coup vous faites pas mal de sur-mesure, c'est quoi la proportion entre le formation, conférence sur catalogue par rapport à des demandes un petit peu, alors j'imagine qu'il y a toujours une base un petit peu que vous pouvez adapter mais j'ai l'impression que vous faites beaucoup de en ce moment peut-être beaucoup de sur-mesure avec ce que tu nous dis.
Ouais, de plus en plus, c'est-à-dire que les premières années des FM2J c'était surtout ludothécaire parce que c'était la première expertise et vraiment là où il y avait le plus gros besoin, en tout cas en 2006 on n'avait pas encore toutes ces réflexions là quoi. Et plus ça va, plus ludothécaire, c'est reconnu, hein, c'est un métier reconnu et c'est encore une fois la formation est diplômante.
Certifiée, ouais.
Mais elle est certifiée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on certifie que la personne qui a le diplôme va trouver du travail j'ai plus les chiffres exacts, c'est ma collègue qui est responsable de ça, mais il me semble que c'est sous les 2 ans. Va trouver un poste, en tout cas 80% ou 90% des personnes vont trouver un poste.
En tout cas, certifier, avoir les compétences pour assurer le métier de bibliothécaire.
Mais du coup, on va pas former 150 personnes par an, ça a aucun intérêt. Donc on a un nombre limité de places pour bibliothécaire tous les ans. Et comme il y a de plus en plus de personnes intéressées, et forcément, on va développer aussi selon les besoins. Et voilà quoi. C'est pour ça que bibliothécaire, ça ne grossira plus. Et c'est très bien comme ça. Par contre, on va grossir beaucoup plus sur tout ce qui est formation sur mesure. On développe aussi des formations en interne qu'on va faire chez nous. Voilà, c'est logique en tout cas.
Oui, effectivement, votre catalogue qui s'enrichit énormément. On arrive vers la fin de l'interview, mais j'avais encore une question. C'est quoi l'avenir du FM2J ? C'est quoi les prochains projets ? C'est quoi vos prochains défis ? C'est quoi un peu les choses excitantes qui arrivent pour vous ?
plein. En fait, la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on a énormément de projets et qu'on est obligé de prioriser tout ça et même prioriser nous nos propres envies aussi parce qu'encore une fois tout bouge et tout se restructure. FM2J, je vous le disais, on est 11 salariés, c'est-à-dire que le système de fonctionnement qu'on avait qui a longtemps été le même maintenant ne fonctionne plus, ou en tout cas ne fonctionnait plus. Donc on est vraiment en grosse restructuration en interne et quand on aura enfin réussi à faire tout ça, ce qui, je l'espère, va finir par arriver, parce que ça fait un petit moment qu'on est dessus, on va pouvoir aller vers beaucoup plus les expertises de chacun d'entre nous. Donc moi, forcément, je vais avoir énormément envie de développer de la formation sur le monde du jeu. J'ai un collègue qui, lui, était beaucoup plus sur tout ce qui est jeu et entreprise. On va aller vers tout ce qui est médico-social. On a envie de faire plus de recherches, on a envie d'aller plus là-dessus. Et à terme, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que puisqu'il y a de plus en plus de demandes de formation et qu'on ne peut pas se dédoubler, nous, on forme d'autres formateurs, donc on s'assure qu'ils ont bien compris un petit peu tout ce qu'on fait et qu'ils ont bien compris l'essence un petit peu des FM2J. On forme d'autres formateurs pour que eux ils puissent aller aussi former un petit peu partout en France, parce qu'effectivement le sur-mesure c'est ce qui est de plus en plus demandé. Donc notre poste à nous, il est en train de basculer de formateur direct vers formateur de formateur, finalement c'est presque ça hein, en sachant qu'on tient quand même à cœur de toujours nous faire aussi de la formation directe. Donc on va en faire un petit peu moins, mais on a besoin de garder ce pied sur le terrain pour avoir les retours des gens et toujours peaufiner un petit peu tout ça, quoi.
Mais du coup, tu parles de formateurs indépendants ou qui dépendent d'autres structures, par exemple?
C'est ça,
c'est
en fait.
C'est pas des formateurs qui dépendent du FM2J et qui...
Non, en fait, on les recrute sur contrat, sur ouais. différentes missions. Et après, bah, comme il y a des formations qui sont plus demandées que d'autres, et ben, il y en a qui vont avoir une spécialisation. Voilà, je suis plutôt spécialisé sur petite enfance, donc on sait qu'on va pouvoir leur proposer d'aller faire des formations, encore une fois, partout en France et au-delà. On a de plus en plus de demandes aussi au-delà, et plus on grossit entre guillemets, plus il y a de grosses structures qui s'intéressent à nous, et forcément, bah, les grosses structures, ils veulent pas former 10 personnes, mais ils vont aller en former 400, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on a tous ces besoins-là, et voilà, c'est... Moi, je rêve qu'on arrive à avoir un peu plus de temps pour nous respirer, développer un peu plus, faire plus de recherches et former des gens et propager un petit peu cette popularisation du jeu qui se veut partout, quoi.
Tu pourrais nous donner des exemples de ces grosses structures là dont tu parles, où tu formes 400 personnes, et quel est le type de formation que vous leur proposez ?
Eh ben, tout à l'heure, par exemple, je vous ai cité Léo Lagrange, qui est donc un gros réseau de crèches, en sachant que il y a aussi je sais pas le terme exact, mais de la rotation dans les équipes. Donc même si on a formé une partie de leurs équipes, ben, il y a aussi besoin,
des départs, des arrivées.
Quelques années plus tard, de refaire une petite piqûre de rappel. La thèse de Cédric pour tout ce qui est Alzheimer, ça a été fait en partenariat, en tout cas à l'époque, avec Corian. Donc on a aussi formé énormément d'animateurs en EHPAD pour voilà, comment je vais proposer du jeu qui est adapté aux résidents. Et pareil, on parlait de turnover, c'est le mot que je cherchais. Le turnover en EHPAD, il est encore plus fort que dans les crèches, quoi. Donc il y a toujours cette nécessité là voilà, ça fait deux grosses structures. On essaie de former aussi des vendeurs. On a bossé avec une structure actuelle, c'est plutôt en cours de développement, avec Jouer Club, hein, pour former leurs vendeurs à eux aussi, soit sur la question du jeu, soit aussi sur la question du handicap, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent et qui disent mon enfant est TDAH, quel jeu vous me conseillez? Et là-dessus, ben, il n'y a pas eu de formation particulière pour les vendeurs, quoi. Donc c'est encore une fois, c'est toujours quels sont les besoins des personnes et comment on arrive à finalement à proposer de la formation là-dessus qui réponde à ça.
Est-ce que tu pourrais expliquer TDAH, s'il te plaît?
TDAH, pardon, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est pareil, hein, le secteur santé handicap, c'est un de mes collègues qui est responsable, qui est aussi sur le stand là cette année. Donc c'est lui qui est beaucoup plus spécialiste que moi là-dessus. Mais typiquement, ce qui ressort souvent, c'est trouble de l'attention avec sans hyperactivité, pardon, ou trouble 10. Voilà, ça c'est des choses qui sont de plus en plus fréquentes, qui sont de plus en plus diagnostiquées, etc. Il y a aussi tout ce qui est trouble du spectre autistique, etc. Donc c'est voilà, vu que tout le monde commence à comprendre un petit peu ces spécificités-là et qu'on se rend compte que ben, finalement il y a pas mal de personnes qui sont touchées par tout ça, ben forcément il y a de plus en plus de demandes et donc ben, il y a une nécessité de se former au moins au conseil là-dessus en tout cas. Donc là on parle des vendeurs mais même les éditeurs aussi, comment je vais adapter mon jeu pour faire en sorte que ça corresponde à ce public-là. Moi ce que j'aime beaucoup l'exemple là, c'est Bombix. Avec le système de couleurs avec les pictos,
ouais.
Qui reprennent sur chacun de leurs jeux et où ben, on a cette adaptation clairement aux daltoniens qui sont aussi quelque chose de plus en plus reconnu et auquel on fait de plus en plus attention. Et c'est presque comme si TDAH et 10 c'était les nouveaux daltoniens qui arrivaient. Voilà, c'est la nouvelle spécificité, on va dire, du public qui arrive, quoi.
C'est le nouveau sujet pour lequel. Les éditeurs commencent à faire un petit peu attention et à s'interroger en tout cas.
Ouais. Bah, en témoigne typiquement Access Plus, c'est un peu ça aussi.
Ouais.
Hein. C'est clairement,
ouais.
On a les classiques qui sont pas accessibles et il faut pas que le matériel soit un frein au jeu, quoi.
Très bien. Est-ce que tu veux, pour terminer, ajouter quelque chose ou passer un message à Quartier Libre?
Ouais, il fallait surtout pas que j'oublie ça. On est en train de lancer, puisque ça fonctionne quand même très bien tout ce qui est réseaux sociaux. Hein. On a une chaîne Instagram là qui a été lancée pour Cannes. On va essayer de communiquer de plus en plus aussi dessus. Il y a le Facebook, il y a le LinkedIn qu'on essaie d'alimenter aussi.
On mettra les références sur le billet.
Mais voilà, en tout cas, ça commence à se lancer. On a plein d'idées, on n'a pas le temps de les faire. on espère en tout cas faire arriver plein de choses. Et puis, probablement faire plein de partenariats aussi, puisque c'est quelque chose qui est super intéressant. Et c'est par l'échange qu'on va faire évoluer tout ça, quoi.
Alors, juste pour dire à nos auditeurs, parce qu'ils vont aller voir le billet, ils vont te voir avec un t-shirt yellow. Est-ce que tu peux nous expliquer
Ouais.
T'es sur le festival avec deux casquettes, si j'ai bien compris, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En fait, du coup, FM2J a un stand cette année. J'ai bossé, du coup, pour FM2J le jeudi. Et moi, à côté, en fait, j'ai monté mon auto-entreprise en 2015 pour faire de l'animation. J'ai commencé en 2013 sur le flip. Je suis un ancien animateur flip où j'ai fait aussi du management là-bas. D'ailleurs, petit clin d'œil.
Et appliquer ton expertise et tes connaissances dans le domaine de l'animation.
Ouais,
du coup,
c'est ça, exactement. Et moi, j'adore animer. Donc là, bon, là, c'est quand même épuisant faire les deux dans le même canne. J'y réfléchirai l'année prochaine. Mais ça me fait tellement de bien d'animer. Voilà, pour moi, animer ou jouer, ça me redonne des forces. Je perds de la voix, mais ça me redonne des forces. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne veux pas perdre non plus, quoi.
Ben, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et ben, avec plaisir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.